Bonjour tout le monde. Moi, je me sens exclu. Parce que figurez-vous que à la manif, j'ai pas été. Et si c'était à refaire, je n'ai pas. J'ai pas perdu 17, j'ai perdu 20. 20, j'ai perdu. Cabu était un camarade, un grand frère. Les trois qui ont fait le massacre, c'est mes enfants. Donc on a échoué nous tous. Rappelez-vous une chose. Au début des années 80, à l'intérieur du Parti Socialiste, il y avait le débat sur le communautarisme. Jean-Pierre Chevènement avait raison. Et ici, les trois quarts des camarades ont porté le Parti Socialiste à l'époque vers cette ligne-là. Et aujourd'hui, on se retrouve les quatre en l'air. Moi, je suis juif, musulman, nègre, pédé, gros, moche, vieux, et je les amère. La lutte du peuple palestinien. Combien de fois j'ai fait le business? Qu'est-ce qu'on a fait? Je parle à ma famille. Il n'y a pas de négociation. On impose la ligne du coup. Il y en a qui disent que la pratique précède la théorie, mais aujourd'hui, c'est la théorie qui précède la pratique. Et cette manière, c'est une manière bourgeoise, et d'aller les petits bourgeois, bien des enfants gâtés du capitalisme. On est dans une journée de néo-colonial. Moi, mes enfants traversent la Méditerranée pour venir se faire esclaves. Comme dans les années 1800, le marché triangulaire. L'esclavage n'existe plus. L'immigration a remplacé l'esclavage. Et quand ils ont fait le regroupement familial, avec sur la commune, l'histoire du communautarisme, les juifs, groupes de juifs à côté des nègres, à côté des arabes, à côté des pédés, à côté de tout le monde, ils ont fait ce qu'on a su. Et si on l'espère, on continuera. Je vous remercie.
Et à madame, monsieur.
Bonjour, moi je suis médecin, j'ai 54 ans. Je suis désolé, mais je ne suis ni juif, ni arabe, ni homosexuel, ni tout ce que vous voulez. Je suis français, aussi blanc qu'on puisse être, malheureusement, pour autant que je le sache. Je dis ça pourquoi ? Parce que pour ceux qui sont comme moi, c'est absolument tout sauf une excuse par rapport à ce qui se passe en tout état de cause. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est remercier Michel Siboni et tous ceux qui participent à la lutte pour le peuple palestinien. Moi-même, je milite dans une association qui passe là, mais peu importe. Et je considère, moi, que c'est une lutte exemplaire. Et que c'est la ligne, la lumière qui doit nous guider, aussi bien en France que de manière générale à travers le monde, pour garder une directrice, pour ne pas perdre ni notre âme, ni notre chemin, surtout. Et je crois que c'est sur cette base-là qu'on peut en sortir.
Merci. Alors, bonjour, donc, je me présente, je suis Souriage algérienne, enfin franco-algérienne, puisque je suis devenue française en 1984. Alors moi, j'ai quelques petites choses à dire. La première, c'est que mes parents, mes grands-parents étaient oulémas, en tout cas en Algérie, et le président de cette association qui défendait les intérêts de la communauté musulmane en Algérie avait demandé à la France de bénéficier de la loi 1905, c'est-à-dire la loi de séparation entre l'Église et la mosquée, en l'occurrence, la mosquée. Et la France a répondu que les lois françaises ne s'appliquaient pas dans les colonies. Grâce à qui ? Grâce aux colons. Alors ça, c'est la première fois. Le deuxième, c'est que moi, je suis algérienne, je vis en Algérie jusqu'à 7 ans, pendant la guerre d'Algérie, et il y a des gens qui venaient, qui parlaient l'arabe, ils étaient chrétiens, musulmans, juifs, je ne savais pas qu'il y avait trois religions. On faisait les trois. Donc je ne suis venue qu'en France, et quand même en France que j'ai compris qu'il y avait trois religions. Et je n'ai jamais compris pourquoi les Français considéraient les juifs comme gens à part, vu qu'ils étaient français avant les Bretons, et personne ne se pose des questions sur les Bretons, parce que les Bretons sont français. Alors pourquoi on pose la question, est-ce que les juifs sont français? Les juifs ont été français avant les Bretons. Moi, ça ne me pose pas de question. Moi, en tant qu'Algérienne, ça me pose une question par rapport à ce que les Français s'envoient dans la gueule, les juifs ne sont pas français. Alors pourquoi les contrôles sont-ils? Ben voilà, alors on est d'accord. Mais quand j'entends l'antisémitisme français, ça vient de loin. C'est-à-dire que c'est. Et il s'est toujours pas guéri, quoi. Et par-dessus ça, bon, voilà, c'est sur la Palestine, ça fait 50 ans que je milite, il est en Palestine, donc je ne vais pas rajouter, mais il y a une chose qui m'effarce, c'est qu'on parle en France de la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression à la télévision, à la radio, etc., et on a toujours les mêmes messages. Est-ce que les gens savent qu'en Grèce, les nazis ont pris l'or qui était dans les banques grecques, qu'ils ont ruiné la Grèce, et qu'aujourd'hui, personne ne veut rendre l'argent aux Grecs? Et demain, je vous propose d'aller voir à la République pour soutenir les Grecs. Parce que tout le monde dit qu'il faut qu'ils remboursent, mais personne ne dit que l'argent et l'or qui étaient dans les banques de Grèce ont été pris par les nazis, donc les Allemands devraient leur rendre. Or, ça n'a pas été fait. Bon, alors là, on dit qu'on est dans un pays libre, où les gens peuvent parler à la télé, à la radio, ça, on n'en parle jamais. Alors, d'autre part, à Gaza, il y a des frontières qui sont en train d'être détruites du côté égyptien, qui s'appelle Rafah, c'est la ville qui était frontière entre la Palestine et l'Égypte. Du côté égyptien, pour des intérêts économiques, machin, ils ont détruit la partie égyptienne. Et du côté israélien, il est question de détruire la partie palestinienne. Ce qui veut dire que personne ne pourra rentrer par Rafah. Donc, moi, je dis que ça c'est pas un truc qu'on devrait dire à la radio, à la télévision, les journaux en France. C'est pas une information qui est importante. Un peu plus court. Bon, d'accord, je vais arrêter. Donc voilà, c'est des faits. Et quand on parle qu'on est dans un pays démocratique, je me pose des questions. Voilà, merci.
Alors, Victor, c'est un débat. On a la chance d'avoir trois personnes super intéressantes. Je comprends que des gens veulent dire des choses qui tiennent à cœur. Mais c'est bien aussi si on peut poser quelques questions pour faire un peu avancer le débat. Parce que sinon, si chacun commence à raconter.
Alima Boumedienne. Deux, trois petits points rapidement. Un, j'aimerais qu'on arrête de dire que nos parents ont baissé la tête. Je veux dire, nos parents n'ont pas baissé la tête. Ils ont été, et pour beaucoup d'entre eux, actifs dans la résistance et notamment dans l'indépendance contre la colonisation française. Et après, ils ont, avec les peu de moyens qu'ils avaient, mais surtout avec toutes les charges qu'ils avaient sur le dos, ils ont su nous transmettre. Ce qui aujourd'hui nous permet aujourd'hui d'être ici et de poursuivre leur combat différemment. Donc ça, c'est un des points qui me semble important qu'il faut qu'on se rappelle.
Est-ce que je peux juste là-dessus
Oui, mais je termine et puis après.
Comme
oui,
tu veux. Ouais,
je
ne
sais pas
ce
que ça. Un deuxième point sur le conflit israélo-palestinien. Il est clair, comme le dit Michel, qu'on a et qu'on tente encore aujourd'hui, et c'est on sait qui, de transformer le conflit colonial en un conflit religieux. Hein, c'est tellement plus facile. Et on voudrait effacer ce conflit colonial pour ne faire voir que ce conflit religieux. Raison pour laquelle on met au cœur du débat aujourd'hui la question palestinienne d'ailleurs. Et il me semble important de garder au cœur de cette question parce qu'on voit d'ailleurs qu'elle a été révélatrice de cette liberté d'expression à géométrie variable. Et puis, un troisième point, là, qui est plus une question d'ailleurs, à chaque fois que l'on parle d'islamophobie, quelles que soient les organisations, blanches ou moins blanches, mais surtout chez les blanches peut-être, on nous parle d'antisémitisme. On a l'impression qu'à chaque fois, on nous rentre, malgré nous, dans une concurrence des victimes, et à chaque fois, de partout, lorsque l'on présente un texte ou lorsque l'on veut porter une action contre l'islamophobie, en face, on nous répond « et l'antisémitisme ». Alors, je veux dire, à un moment donné, ça commence à bien faire. On a l'impression qu'on est assigné à résidence, est toujours obligé de répondre à une injonction, comme tu dis, mais que faire pour montrer que, on ne peut pas continuer à être tout le temps, obligé de répondre à cette injonction. Montrer que on ne soit pas toujours obligé de parler d'antisémitisme quand on parle d'islamophobie. Merci.
Alors, soit on revient de l'histoire, soit on prend une autre question.
Non, vous prenez les questions, non? C'est mieux.
Essayez de faire. Ça ne
pièce pas. J'ai deux choses à dire. D'une part,
J'étais très choquée par la présence de drapeaux israéliens lors de la manifestation à Charlie. C'est drôle parce que pour un match de foot, il y a eu des drapeaux algériens, on en a fait un scandale. Or, là, les drapeaux israéliens ont été vus et revus. Je suis scandalisée parce que personne n'a réagi, que nous n'avons pas réagi là-dessus. J'ai été aussi scandalisée par les propos d'un criminel de guerre, derrière lequel il était hors de question que je puisse marcher, Netanyahou, qui dit aux Français de religion juive, les Français juifs, vous avez votre place en Israël. Nous sommes scandalisés quand le djihad appelle les musulmans. Pourquoi deux poids, deux mesures? J'encourage personne à aller au djihad dans cette histoire. Ni en Israël d'ailleurs. Ils seront bien déçus. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une mauvaise période, une période de trouble. Très grave. La question de la Palestine, parce que pour moi, ce n'est pas un conflit, c'est une question, est un prétexte pour faire du néocolonialisme, attaquer la Libye, attaquer les autres pays du Proche et Moyen-Orient. Et nous ne réglons, et tant que cette question palestinienne ne sera pas réglée, il n'y aura pas de règlement dans toute cette région Proche et Moyen-Orient.
Bonjour, Jean-François Millot. Bon, ben, dans cette histoire d'attentat de Charlie Hebdo, ben, j'avoue que j'ai été partagé. Les premières manifestations spontanées, j'y serais allé, mais quand c'est devenu un truc tellement martelé que finalement, indépendamment de la volonté des défunts, Charlie Hebdo, c'est devenu le second journal officiel. Il était de bon temps d'être allé à la grande manif d'un million avec les chefs d'État, je ne pourrais pas renommer, bon, dont Netanyahou, dont Viktor Orban, dont s'il n'est pas d'extrême droite, on pourrait dire qu'il soit de droite extrême, avec les tyrannos de la France-Afrique. Et bon, et la communauté musulmane était sommée de faire le ménage dans ses rangs et de justifier qu'elle était, bon, bah, elle était présentable. Bon. Alors, moi, à mon avis, c'est le passé, tout ça a déjà été dit, colonial de la France. Bon, n'ont pas fait le ménage avec cette histoire. Bon, je le rappelle, bon, quand j'étais enfant, il y avait la guerre d'Algérie et on m'avait inculqué la peur de l'arabe. Heureusement, c'est passé. Bon, et puis, non, mais c'est vrai, ça existe. D'autre part, l'attitude de l'extrême droite a toujours été ambiguë vis-à-vis de l'État d'Israël. Titi Eminyankou, tout ça, qui considère Israël comme allié et objectif de l'Occident, et Dimolé aussi, par rapport à la. À l'Égypte, d'une part, de Nasser, qui avait osé nous nationaliser le canal de Suez, et par rapport au mouvement de libération nationale du peuple algérien. Après, bon, l'extrême droite est revenue à ses fondamentaux antisémites, mais de nouveau, Marine Le Pen, Ripolline, même si le père fait des dérapages sans doute pour essayer de rassurer ses électeurs traditionnels, Marine Le Pen essaie de camoufler ça, quoi. Et bon, effectivement, ça donne les deux poids, deux mesures, quoi. Dans la hiérarchisation, je vais faire court, des immigrations. Les Asiatiques, on n'en parle pas, ils sont courageux, ils sont travailleurs. Bon, les Bilins, c'est les Maghrébins et les Noirs. Les Juifs, et une civilisation, ça dépend. C'est pas d'ailleurs une immigration, de toute façon. Voilà.
Pas si. Ils ont vécu.
Ah, bah, nous, Le Pen,
ouais. Bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur Dieudonné, parce que c'est très dommage qu'encore une fois la quenelle soit stigmatisée, puisque la quenelle est un geste anti-système. Je suis personnellement Dieudonné, je ne parle pas de Sora qui est complètement pour moi différent. La quenelle à la base est un geste anti-système et l'associe encore une fois l'antisémitisme, comme l'a fait la Pubonis et comme le fait le CRIB et la LITRA. Donc il y a peut-être des quenelles qui ont été antisémites, mais dire que la quenelle est un geste antisémite, c'est faux, c'est un geste anti-système. Oui, mais il faut suivre les spectacles pour connaître Dieudonné et son œuvre pour comprendre qu'à la base, c'est un système qui a peut-être été repris effectivement dans un cadre un peu douteux, par exemple comme Sora, Lockwood, etc. Mais c'est un geste anti-système. Et le fait de stigmatiser, de taper sur lui encore et encore, d'ailleurs, après la manifestation pour la liberté d'expression, trois jours après, il a rien à dire parce qu'il est Charlie Koulibaly. C'est encore une fois reprendre le discours dominant et taper sur quelqu'un qui n'a absolument pas signé, qui peut un peu
on va vous répondre. On va essayer de répondre brièvement.
On rappelle que chacun a le droit de défendre ses opinions.
On va essayer de répondre brièvement aux différentes questions et aux différents propos qui ont été tenus. On vous en remercie. En tout cas, moi, je vous en remercie. Et je vais commencer par un aspect qui me semble tout à fait essentiel. C'est que, étant donné ce que nous sommes en train de traverser, je pense qu'il est enfin temps de considérer que les personnes publiques n'ont pas à être défendues et que ce qu'il faut défendre, c'est les collectifs. Donc moi, Dieudonné ne m'intéresse pas. Et le fait qu'il se pose en victime ne m'intéresse pas. Et le fait qu'il soit proche ou pas proche de Soral, avec le néologisme que vient nous proposer Michel Siboni, sans vouloir, tout ça, c'est juste du divertissement. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les anonymes, c'est celles et ceux qui se mobilisent sans qu'on connaisse leur nom, qui ne cherchent pas à briller sur les plateaux, qui ne cherchent pas à truster la parole publique, qui ne sont pas dans une logique de l'intimidation pour pouvoir imposer leur point de vue, qui sont effectivement solidaires, loyaux, qui sont en sécession et qui le payent parfois très cher, par la solitude, par l'abandon, par le sentiment que finalement leur cause ne sera jamais entendue. C'est cela qui m'intéresse, cela et celle-là. Donc, pour ma part, les tarifs Ramadan et autres, ils sont très bien placés pour se défendre tout seuls, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont besoin de personne. Ils ont fait, ce sont des entrepreneurs d'eux-mêmes, et ils y arrivent très bien sans nous. Je refuse d'accorder une seule seconde à ces questions-là. Alors maintenant, venons à des choses qui effectivement nous intéressent. Les anonymes, effectivement, nos parents qui n'ont pas courbé la tête. C'est juste qu'ils étaient invisibles. Hein. C'est-à-dire, personne ne s'est aperçu qu'ils étaient là. Alors évidemment, ils courbaient pas la tête. Ils parlaient pas. De toute façon, ils parlaient une langue que personne n'avait envie de comprendre, n'est-ce pas ? Un français approximatif et un arabe qui n'était qu'une langue de l'ancien colonisé ou du colonisé d'ailleurs. Donc bien sûr que personne ne s'est aperçu qu'ils avaient une dignité, qu'ils avaient une force, qu'ils avaient une puissance d'agir, hein, pour utiliser les termes féministes lourds, n'est-ce pas, ils étaient capables d'agir et ils ont souvent agi très au-delà de ce que les circonstances et de ce que les pressions des États dans lesquels ils se trouvaient leur accordaient. Donc ils ont aussi arraché des choses parfois très au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Seulement, là aussi, ça fait partie des anonymes dont on ne sait pas. Je crois qu'un jour, j'ai raconté un truc dans lequel je parlais des intégrateurs anonymes. Ceux-là, ils l'ont été. Leurs enfants ont refusé l'intégration. Et ils ont eu raison parce que c'est une injonction destructrice, aliénante, et qui en fait ouvre la voie, un boulevard littéralement, aux discriminations. Donc, contact. Beaucoup d'entre eux ne sont plus là d'ailleurs pour parler pour eux-mêmes. Donc nous nous garderons bien de parler à leur place. Alors enfin, ce qui me semble aussi commencer à émerger de tout ça, c'est cette question effectivement, hein, cette double face que Michel rappelait entre antisémitisme et islamophobie. Peut-être qu'il serait temps effectivement, lorsque l'interpellation surgit, de rappeler que nous sommes dans un système tout à fait retors et en même temps redoutablement efficace, dans lequel l'antisémitisme est sous-traité aux victimes de l'islamophobie. Vous me suivez ? Ceux qui subissent l'islamophobie sont les antisémites. Or, effectivement, il y a des personnes qui sont référées ou présumées musulmanes, comme on a pu l'écrire collectivement dans un texte, et qui peuvent manifester des sentiments antisémites ou qui peuvent aller jusqu'à des actes antisémites. Il faudrait juste rappeler que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas aliénable. Hein. On peut être aliénable à des tas de causes, y compris perdre sa propre souveraineté en obéissant ou en se faisant le jouet d'injonctions auxquelles on pourrait très bien répondre par la négative. Donc effectivement, en France, on est dans le système que rappelait Michel, et je pense que c'est très important de travailler sur les deux en même temps, de rappeler toutes les fois où il y a ce rappel à l'ordre de « mais vous luttez bien contre l'antisémitisme, n'est-ce pas ?» de rappeler que ceux et celles auxquels on sous-traite l'antisémitisme sont les premières victimes de l'islamophobie. Autrement dit, c'est un cercle vicieux et c'est une sorte de danse infernale entre celles et ceux qui sont menacés effectivement par quelque chose qui est un antisémitisme bien plus ancien que celui que l'on attribue aujourd'hui, hein, parce que la France est complètement disculpée de toute forme d'antisémitisme. Le seul endroit où il y a de l'antisémitisme, c'est dans les quartiers, c'est dans les foyers musulmans, dans les mosquées, etc. Donc, aller à l'encontre de ça, on lui suppose même que c'est une logique du dominant, effectivement. Hein, c'est une stratégie hégémonique. Il s'agit effectivement de tout faire pour que les victimes s'entretuent et que celles et ceux qui sont les plus opprimés ou ceux qui sont instrumentalisés, je ne suis pas en train de dire que l'ensemble des juifs qui vivent ensemble en France sont opprimés, mais en tout cas ils font l'objet d'un discours qui contribue à les présenter comme des victimes et à les condamner à le devenir. Ça, c'est effectivement quelque chose de redoutable. Donc là-dessus, il y a peut-être matière à être beaucoup plus explicite, à aller de l'avant et à refuser effectivement de dire quoi que ce soit à ce sujet. Il y a une autre question qui, moi, me préoccupe beaucoup. C'est une fois qu'on a dit qu'il n'était pas question de se désolidariser de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. C'est une chose entendue, effectivement. Il est hors de question de se désolidariser des actes qui ont été faits, des responsables de ces actes, au prétexte qu'ils invoquent, effectivement, une religion pour justifier leur violence, qui est parfaitement inadmissible. Que reste-t-il à faire ? L'essentiel. Autrement dit, à mon sens, il y a quelque chose où là aussi il faut poser un refus absolu. C'est de faire le diagnostic dans la maison du maître, et là je paraphrase Audre Lorde, qui est une lesbienne noire américaine féministe, et qui a lutté contre toutes les formes d'oppression, pas seulement aux États-Unis, mais très au-delà, et qui disait qu'on ne peut pas démanteler la maison du maître avec les armes et les outils du maître. Or, répondre à l'injonction de devoir faire le diagnostic des raisons pour lesquelles des jeunes partent au djihad ou deviennent délinquants ou font l'itinéraire qu'on évoquait tout à l'heure avec le passage par la case prison, c'est en quelque sorte répondre à l'injonction, là encore, de la suprématie blanche et du pouvoir dominant. C'est de dire, au fond, nous détiendrions des informations que nous pourrions peut-être partager avec vous. Non, il n'est pas question, encore une fois, de céder à l'injonction, et certainement pas sous le regard du maître et de la France blanche qui viendrait compter les points sur est-ce que vous êtes capable, en quelque sorte, de nous expliquer pourquoi est-ce que vos semblables se comportent comme ça. Ce ne sont pas mes semblables, ou alors ça l'est, ça dépend des moments. Ils ne sont pas que musulmans, d'ailleurs, faut-il le rappeler. Ils ont aussi un sexe, ils ont aussi de multiples identités, et il serait enfin temps de désagréger cette espèce de monstre que nous on est en train de créer de toutes pièces, qui serait les musulmans ou le musulman qui passe à l'acte. Donc je crois que là aussi, il y a une sorte de refus qu'il faut opposer sur le fait, en quelque sorte, de dire, n'est-ce pas, on va vous avouer pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Non. Comme le disent très bien les militants subalternes, subalternatives, ce qui est souvent rappelé de la part des luttes des féministes noires américaines, des anticoloniaux, des mouvements de décolonisation, c'est qu'en fait, la lutte ne se fait pas sous le regard de celui qui a imposé le joug et qui a imposé l'oppression. Donc lutter contre, effectivement, ces dynamiques qui aujourd'hui conduisent des jeunes gens à des stratégies mortifères, parce que soit ils meurent dans le cadre de bavures policières ou de meurtres racistes, soit ils sont détruits par la prison, soit ils finissent par arriver à des formes de djihad dont il est douteux qu'ils puissent survivre, ou alors ils passent à des actes comme ceux que nous venons de voir depuis plusieurs années. Dans tous ces cas de figure, il n'est pas question de fournir les armes qui vont permettre d'aggraver la répression et de justifier les lois liberticides. Donc si le travail doit se faire, il doit se faire dans l'entre-soi. Autrement dit, là, il y a un risque à prendre. Hein, c'est de prêter le flanc à des accusations de communautarisme. Hein. Mais l'entre-soi, c'est l'entre-soi politique. C'est la communauté d'expérience. C'est cette expérience conjointe et commune de l'oppression qui, effectivement, balaye tout le spectre de l'échec scolaire, comme dirait l'autre, jusqu'à la lutte palestinienne, en passant, effectivement, par la dénonciation du racisme d'État. Mais, encore une fois, il me semble qu'il ne faut jamais céder sur le fait de le faire sous le regard de celui qui, ensuite, pourrait considérer que nous sommes comptables. Et ça, c'est une lutte qui, aujourd'hui, va devoir être menée pour cesser de devoir rendre des comptes.
J'ai envie de répondre à Dima à la question sur l'injonction faite aux gens qui se plaignent d'islamophobie d'aborder la question de l'antisémitisme comme à la question de mademoiselle sur la quenelle. J'ai envie de répondre par un mot, c'est complexité. Nassira a déjà répondu partiellement. Il y a une association venimeuse et vicieuse entre l'islamophobie et l'antisémitisme. Et la réponse à des situations complexes, des situations créées par des gens qui ont le pouvoir, c'est toujours pareil. C'est l'opprimé, celui qui est faible, qui n'a pas les moyens, qui est frappé dans la cour et qui est sans armes, qui va devoir trouver des solutions pour se sortir d'une situation en face du fort, de l'armée, du dominant, et qui a les outils. C'est comme ça depuis la révolte des esclaves. D'accord ? Les esclaves qui se révoltent contre les maîtres. Donc, on est obligé d'être intelligent, si j'ose dire, quand on veut se bagarrer. Et on est obligé d'assumer la complexité des situations. C'est-à-dire, rejeter effectivement l'injonction, je n'ai pas à déclarer que je ne suis pas antisémite pour avoir le droit d'exister, ça c'est une évidence, mais souligner, comme l'a très bien dit Nassira, que ce n'est pas par hasard qu'on pose cette question et qu'on fait allusion à une association dangereuse et violente qui fait porter aux musulmans la question de l'antisémitisme en France, ce qui est loin d'être évident. Pour ce qui concerne la quenelle, bon, déjà moi j'ai un problème, c'est même pas une parole.
C'est quoi la quenelle ?
C'est un geste. Et c'est un geste qui est à mi-chemin, qui n'est pas une parole et qui n'est pas encore tout à fait un acte. Mais je me méfie énormément des moments ou des lieux ou des endroits où on cherche à enlever des paroles et mettre des actes à la place. Je pense que ça c'est mortifère et c'est le premier pas vers la violence. En plus, je trouve que c'est un manque de respect profond pour les gens à qui on s'adresse que de leur offrir un geste, même pas une idée. Et je pense que c'est pas à la hauteur des aspirations des gens qui entrent sur les sites de Dieudonné que j'ai été voir aussi et écouter aussi. Que de leur offrir un ananas ou une quenelle. Excusez-moi, mais c'est du mépris, je trouve. Et là aussi, la complexité s'impose. Il y a des gens qui vont utiliser l'antisionisme et la nécessaire reconnaissance de la légitimité de l'antisionisme comme un élément, comme un débat politique. L'antisionisme est une réponse politique dans un débat politique contre le sionisme, qui est aussi un mouvement politique. Il n'y a rien de raciste là-dedans. C'est à imposer. Mais il y a des gens qui déforment volontairement, qui au fond font le travail de Daesh et font le travail du néo-conservatisme. C'est le même travail. C'est remplacer l'un par l'autre. Et c'est pas admissible. C'est pas admissible qu'on continue à venir défendre. Alors, je comprends le point de vue de Nassira, je ne partage pas forcément. C'est pas admissible qu'on continue à défendre des gens qui profèrent des énormités racistes en faisant semblant de ne pas entendre, de ne pas comprendre ce qu'ils disent. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'on a envie d'être sourd. Et moi, je suis pas sourd, je suis désolée, j'ai les oreilles débouchées. Tant pis. Et puis, et c'est pas le moindre des mots de ces mouvances Dieudonné ou Soral, que de faire le lien entre l'extrême droite et une base populaire fragile et atteinte qui est la base arabo-musulmane. C'est grave de faire ça. Il y a deux extrêmes droites, il y a deux courants d'extrême droite en France. Il y en a un qui fait le rapprochement avec les juifs, c'est le Front National, quand il va se promener à Tel Aviv et rencontrer la communauté juive, etc. Et il y en a un, par le biais de Soral notamment, qui fait le lien entre les petits fascistes et les jeunes des banlieues, pour le dire vite. Il y a un point dont on n'a pas du tout parlé, c'est le rôle qu'on veut faire porter à l'école aujourd'hui. Et dans la série des recommandations de Nassira, j'aurais ajouté ça, quoi. L'école aujourd'hui est devenue le moyen de contrôle de masse de toute une population, puisque c'est là-bas qu'on contrôle, hein, on ne contrôle pas la Janson de Sailly, ce que disent les élèves, je ne crois pas, du moins, et on ne convoque pas les parents de Janson de Sailly. Par contre, dans toutes les cités, dans tous les quartiers, dans toutes les banlieues, par le biais d'enfants, on est en train de remonter dans les familles. Et je pèse mes mots parce que je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire déjà à mon époque quand j'étais prof et qu'on nous avait donné ce DVD pédagogique comme prof d'histoire sur la déportation des juifs dans Paris. Et moi, je croyais qu'on allait me remettre un DVD, celui qu'on remet au prof et qu'il l'utilise ou pas comme il veut. Pas du tout. C'était un par élève. Un par élève. Et il y avait la lettre de la Noé qui accompagnait cette caisse de DVD qu'on m'avait remise, et que je n'ai jamais distribuée à personne, du coup, qui expliquait qu'il fallait que les enfants fassent voir aussi à leurs parents. C'est-à-dire qu'il faut remonter les filières, vous comprenez, du djihadisme. Ça part de 5 ans en culotte courte, et ça remonte dans les familles. Il faut que les parents regardent aussi ce qui s'est passé, ce qui a été fait aux juifs, parce que, évidemment, comme musulmans, ils sont antisémites et dangereux. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui devrait être un front du refus, littéralement, de cette manipulation. Ne touchez pas à notre école. Ne touchez pas à notre école. Foutez la paix aux maîtres, foutez la paix aux enfants. Ça devrait être un mot d'ordre porté par tous les syndicats de France, entre autres.
Quelques très brefs télégrammes, pour aller vite. Moi, à Lima, j'ai une très bonne mémoire, parce que j'étais enfant, ma mère était dans les réseaux Janson, et on allait à peu près toutes les semaines, on avait quelqu'un de la famille dans les HLM en face du bidonville, qui à l'époque existait, et mes copains, c'était les copains du bidonville, on jouait au foot, on faisait tout, et bon, j'allais prendre le thé chez tel ou tel. N'embellissons pas le passé parce qu'il était rude, je crois. Hein. C'était très, très, très rude. C'était des conditions inhumaines. D'ailleurs, si on les racontait aujourd'hui, les mômes ne nous croiraient pas. Ne croiraient pas que ça ait pu exister en France il y a si peu de temps. Quoi. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs. Quoi. Deuxième chose, sur le Front National, il y a eu un vrai tournant. Hein. Qui a été pris, il faut bien en être conscient, par rapport à Israël. Le Front National était pro-palestinien, pour aller vite, pendant une longue période, très longue période, et puis, avec le tournant imposé par Marine Le Pen, qui est un tournant islamophobe, pas seulement islamophobe, mais qui considère l'islamophobie comme un bélier pour l'avancée des idées du Front National, et évidemment, ça s'est accompagné d'une sympathie soudaine pour les juifs. Il faut quand même le faire. Marine Le Pen disant que la Shoah était la pire des tragédies de l'histoire. C'est pas vraiment ce que disait son père, quoi, autant que je me souvienne. Et elle n'était pas en culotte courte, elle était d'accord avec son père à l'époque. Donc il y a tout un travail de rapprochement avec Israël qui est en cours et que son compagnon Alliot a été fait sur place. Donc il faut bien regarder ça en face parce que c'est une tendance de toutes les extrêmes droites européennes. Hein, c'est pas seulement le Front National. Troisièmement, par rapport à l'islamophobie antisémitique, je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'irais à Lima parce que ça me paraît important, comme disait le vieux barbu, qui est beaucoup plus barbu que moi, et beaucoup plus génial, surtout, l'idéologie dominante, c'est celle de la classe dominante. Donc si ça c'est vrai, si on veut essayer de contrebattre cette idéologie, il faut répondre aux arguments. Et donc, quand on a en face de nous, et ça, tu le sais, comme moi, quand on a en face de nous des gens qui disent « Mais comment vous parlez d'islamophobie, mais ce qui est grave, c'est l'antisémitisme, etc. », c'est bien de leur donner des éléments pour savoir que oui, il y a des soucis avec les actes de violence antisémite, mais qu'au point de vue idéologique, il n'y a pas photo avec l'islamophobie. On a une islamophobie consensuelle en France. C'est pour ça que j'accepte l'idée de France Blanche, parce que bon, ça se manifeste aussi comme ça. Il n'y a pas d'antisémitisme consensuel, il est marginal. Il est marginalisé au fur et à mesure de l'histoire. Mais il faut le dire, on ne peut pas ne pas le dire, parce que sinon, on ne fait pas notre boulot de déconstruction de l'idéologie des gens d'en face. Un mot seulement, parce que je partage assez ce que dit Nassira sur Dieudonné et compagnie. Moi, ça me suffit que Dieudonné, il ait été adhéré au Front National, que Le Pen soit le parrain de sa fille. Ça va, quoi. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Dieudonné, c'est son droit le plus strict. Il est au Front National. Voilà, bon, il est au Front National. Point barre. Voilà. C'est bon. Dernière question, on n'en a pas discuté, vous n'en avez pas parlé. Mais à mon avis, excusez-moi, c'est la question la plus nécessaire et en même temps la plus compliquée. C'est celle qu'a abordée aussi Michel. C'est celle des alliances. Moi, je le dis, je le redis, je comprends ce que dit Nassira, parce qu'elle est d'origine algérienne et moi pas. Elle est de culture musulmane, je ne sais pas si on peut dire ça.
Non,
non, peu importe. Mais je veux dire, moi, je ne peux pas, je ne peux pas personnellement ne m'adresser qu'à une partie.
C'est pas ce que je dis.
Qu'à Nassira.
C'est pas ce que je dis.
Moi, je dis, cette question des alliances, elle est capitale pour tout le monde.
Mais j'ai parlé d'alliance subalternative.
Oui, oui, mais c'est une alliance, si tu veux, dans mon esprit, qui est une alliance absolument capitale pour les jeunes issus de l'immigration, parce qu'ils ne s'en sortiront pas tout seuls. Sinon, il y a ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire la mise au coin, la mise au banc de la société par l'interdiction des manifs, par les négociations habiles pour faire que certaines manifs soient acceptées, d'autres non, etc. etc. Il ne faut pas ça, il faut arriver à bâtir des alliances. Toute la difficulté, toi tu dis ne pas le faire sous les yeux des maîtres, ou du maître, mais qui est le maître?
Ah, mais attends, voilà. Moi, j'ai un truc
c'est
à dire.
Attends, laisse-moi juste finir. Qui est le maître? C'est-à-dire, en France, on a quand même mêlé de telle ou telle origine des gens qui sont tous des exploités. Il y en a. C'est très important. C'est-à-dire, les alliances qui sont des alliances de classe sont aussi des alliances entre la France blanche et la France
bâtonnée. Peut-être qu'elle n'est pas blanche, celle-là.
Alors, tout le problème,
c'est quoi être blanc?
Oui, mais tout le problème, c'est de bâtir cette alliance. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit large et il faut qu'elle soit radicale. Parce que ce dont il est question, ça n'est pas une espèce de truc genre programme commun de la gauche, PCPS, on sait très bien à quoi ça nous amenait, on en a fait l'expérience, tous. Ça n'est pas non plus les alliances du type cartel qu'on peut voir mal fonctionner, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le Front de Gauche. Ça ne fonctionne pas, on le voit. C'est pas non plus la marginalité de l'extrême gauche, parce qu'elle est sympathique, mais elle reste marginale. Donc il faut arriver à bâtir quelque chose de nouveau. Et moi, j'avoue que ça me pose question à peu près tous les jours, parce que dans le nouveau, il y a l'idée de radicalité. Et la radicalité, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi la radicalité. Par exemple, tu disais intégration, on n'en veut pas, moi non plus. Voilà une question radicale. Parce que ça veut dire qu'il faut effectivement, je reprends mon titre d'il y a 10 ans, casser au sens propre l'apartheid social, politique, ethnique, dont parle mal. C'est pas tout d'en parler, c'est qu'il faut le casser. Donc ça demande la construction de ce que je pense, le JFP est aussi en train d'essayer d'avancer. Il y a eu, je les cite pour mémoire, la journée du 13 décembre sur l'islamophobie, qui était aussi, à mon avis, une tentative, le forum, hein, d'avancer. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais pour l'instant, l'expérience, c'est qu'on a énormément de mal
à être audible,
et à penser quelque chose d'autre que ce qu'on a déjà vécu. Mmh.
Je veux dire quelque chose. Juste une phrase là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de colère, et ça ne doit peut-être pas, mais beaucoup de colère. Il y a des choses qui ne se font pas, comment dire, mais qui sont classiques. La victime du racisme, c'est elle la raciste. Vous la connaissez, celle-là. Vous êtes celui qui subit le racisme tous les jours, mais c'est vous qui êtes raciste, puisque vous êtes antisémite, ou puisque vous êtes anti-blanc.
Sexiste.
Donc, faire porter la culpabilité et la responsabilité de ce qu'on pratique, de ce que pratique le dominant au dominé, c'est une vieille pratique et c'est devenu insupportable. Mais ça, c'est le coup du dominant, on le connaît. Il n'est pas trop difficile à identifier. Par contre, ceux avec qui on doit faire les alliances, là, ça devient subtil. C'est plus possible de parler à des gens qui sont absolument inconscients des privilèges qu'ils détiennent et qui ne se rendent pas compte que l'autonomie des luttes, c'est la base, enfin, je veux dire, n'importe quelle femme sait que le féminisme s'est développé sur la base de l'autonomie des femmes. C'est elles qui définissent l'agenda. C'est pas le grand patron, ni papa, ni patron,
ni mari, ni amant, etc. Etc.
Ni grand frère. C'est les femmes seules qui construisent l'autonomie des femmes. La lutte se fait dans l'autonomie. Je pense, alors je ne sais pas où me mettre moi entre les blancs et les pas blancs, je suis juive marocaine, dans ma tradition on n'était pas blancs. Hein. Mais je peux comprendre qu'on me met à la place d'un blanc dans une société dominante où j'ai une gueule blanche. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus possible que les gens utilisent leurs privilèges sans se rendre compte qu'ils les détiennent et pour dicter l'agenda aux gens qu'il s'agit d'aider et aux gens avec qui il s'agit de construire une société. Il faut absolument arriver à une expression autonome, même dans la recherche d'alliances. Et tant pis s'il y a des gens qui n'y sont pas. Mais il va falloir que chacun balaye devant sa porte, quoi. Je le dis très poliment, là.
Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on a le temps de prendre encore des questions ?
Je sais pas, parce qu'on a un débat derrière.
Je sais pas sur la question. D'accord.
Il y a une question là, puis j'avais.
Est-ce que les organisateurs peuvent nous dire s'ils ont besoin de cet espace ?
Est-ce qu'il y a un organisateur dans la salle ? On a commencé en retard. Hein. Faut juste.
On est désolé, il faut qu'on. La dernière.
Alors, Joël. Ma question est hyper terre à terre. En tant qu'animatrice socioculturelle, qui travaille avec des jeunes, qui intervient sur le racisme et la discrimination, même si en fait les structures elles lui demandent d'intervenir sur la citoyenneté, sur le racisme et la discrimination, c'est ce qu'on fait en fait. J'ai beaucoup discuté ces dernières semaines avec des jeunes des questions de religion, etc., parce qu'ils avaient beaucoup de questions. Je me suis rendu compte d'un côté que clairement il y avait quand même. Certaines lacunes qui sont tout à fait compréhensibles, qui ont de leur rage, etc. Maintenant, quand on leur parle du conflit israélo-palestinien, ils ont des opinions, ils vont les partager, mais par exemple, on leur demande comment. Est-ce que vous savez comment ce conflit a commencé ? Bah, grand silence dans la salle, etc. C'est normal, ils ont 12 ans, ils ont 13 ans, etc. Mais il y a aussi la question de l'instrumentalisation dont on parlait, dont ils sont victimes, ils jouent un peu le jeu des dominants, puisqu'on se retrouve avec des jeunes qui. Tiennent des propos antisémites et ne se rendent pas compte qu'ils jouent exactement le rôle qu'on veut leur faire jouer, c'est-à-dire du jeune de banlieue musulman, etc., qui tient des propos antisémites. Et donc moi, face à ça, dans la pratique professionnelle, je me pose la question, je me dis qui peut leur parler de ça ? Qui peut leur parler de ça ? Parce que l'éducation nationale, on sait qu'ils ne le font pas, que c'est pas possible, et quand on est travailleur social, quand on est anniversaire, etc., il y a plein de pressions et de choses autour de vous qui vous... quand vous commencez à parler de religion dans une classe, dans un centre social, dans une animation, etc., on crée des gros yeux, vous ne devez pas parler de votre position personnelle, vous devez parler de ça, etc. Les travailleurs sociaux sont les premiers à vous dire qu'ils sont tout le temps dans un dilemme constant, qu'ils subissent des pressions, que c'est difficile, etc. Donc ma question, c'est selon vous, vraiment, votre opinion, si vous avez une opinion sur qui peut parler de ça aux premières victimes de ces instrumentalisations et qui peut être l'objet du changement et... Voilà.
Et après,
Bonjour, alors c'est pas vraiment une question, je m'appelle Saïda, je suis partie dans un cours qui s'appelle le comité d'ancien panélisme. Moi, c'était plus par rapport aux perspectives. Ça a été évoqué bon, sur le conseil, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je pense que le. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses très justes qui ont été dites. Je pense qu'effectivement, par rapport aux perspectives, la situation actuelle, elle nous amène à nous interroger, par exemple, sur la question des guerres qui sont menées par la France. Je pense que ce n'est pas anodin qu'il y ait eu autant d'interventions de la France et qu'il n'y ait pas eu de réaction pour dénoncer ces guerres. Et je pense que ça doit être le premier pas. Parce qu'on ne peut pas... Alors, évidemment, ce qui est essentiel pour l'instant, c'est de déconstruire le discours dominant. Parce que, voilà, on est un peu... Voilà, on voit dans les médias, on voit un peu dans l'espace public, on a l'impression d'entendre que ça. Donc, il y a effectivement besoin de déconstruire ce discours. Mais il y a aussi besoin, je pense, de construire un véritable mouvement anti-impérialiste en France qui dénonce ces guerres. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait autant d'interventions de la part de la France dans des pays, effectivement, à majorité musulmane, où on sait très bien que c'est le chaos, en Irak, en Afghanistan et dans de nombreux autres pays, la Libye, on pourrait en citer un certain nombre. On crée le chaos, on crée le terreau au terrorisme, et après, on s'étonne voilà, des conséquences. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, c'est une question, la question de la lutte contre l'impérialisme français, elle est fondamentale. Et autre chose, bon, voilà, la guerre, elle est menée à l'extérieur, ça a été dit, elle est menée aussi à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on voit à chaque fois la réaction, aussi bien du côté de la gauche que du côté de la droite, par rapport aux jeunes issus d'immigration, et même plus largement voilà, à ceux qui vivent dans les quartiers populaires, parce que, bon, petite parenthèse, alors, islamophobie, ce terme me dérange un tout petit peu parce que. La France, elle a autant de problèmes avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite. Voilà. Elle a un problème avec l'islam quand ça l'arrange. Elle a un problème avec l'islam surtout quand il s'agit des populations pauvres, voilà, issues des quartiers populaires. Et je pense que c'est un élément quand même important à rappeler. Et vraiment, je vais faire juste très court. Voilà, on a eu des révoltes en novembre 2005. Il y a eu une sacro-sainte alliance donc pour criminaliser ces populations. On a eu, là, ça a été évoqué tout à l'heure, cet été, des manifestations en solidarité avec la Palestine. Il y a énormément de jeunes qui sont passés en posé, qui ont pris du fer, on n'a absolument pas entendu parler. Aujourd'hui, donc, il y a la question de l'école, effectivement, je trouve ça absolument scandaleux. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport aux dénonciations des élèves, de la part des enseignants, de la part des directions. En tout cas, ce travail-là, je pense que ça mériterait véritablement une campagne pour refuser, pour dénoncer ce qui se passe. Voilà,
je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On s'arrête là et puis on se parle tout de suite.